Angelin Prel-Jocage est une des grandes figures de la danse contemporaine mondiale. Avec sa compagnie créée en 1984, située au Pavillon Noir à Aix-en-Provence, il a chorégraphié une soixantaine de pièces, du solo aux grandes formes, des projets abstraits au ballet narratif. Ses créations tournent dans le monde entier et il reçoit des commandes d'institutions prestigieuses. Le 8 octobre, le Théâtre du Briançonnais ouvrait sa saison 2024-2025 avec un spectacle événement. Trois pièces maîtresses du ballet Prel-Jocage, Annonciation, Trait d'Union et Larmes Blanches. Rencontre avec Angelin Prel-Jocage dans les coulisses du Théâtre du Briançonnais. Angelin Prel-Jocage, vous étiez déjà venu à Briançon ?
Non, c'est la première fois pour ma part.
Vous travaillez avec de prestigieuses structures artistiques et en même temps vous êtes ici aujourd'hui dans Briançon, cette petite ville. Quel regard portez-vous sur l'accessibilité à l'art et à la danse en particulier ?
Pour moi, c'est très important de pouvoir aller vraiment irriguer des territoires qui sont peu ou prou habités par la danse. Pour cela, j'ai un groupe qui s'appelle le Guide, qui est le groupe urbain d'intervention dansée, qui est une sorte de commando danseurs qui vont dans les écoles, les lycées, les places de village, les hôpitaux, les prisons, tous ces endroits où la danse ne va pas. Et donc c'est une sorte de credo que j'ai, que c'est parfois aussi à la danse d'aller vers les gens et pas forcément les gens qui doivent se déplacer systématiquement pour aller dans les théâtres pour découvrir la danse. Et au moins, ça peut leur mettre les pieds à l'étrier et donner le désir d'aller voir de la danse, parce que je pense que la danse, elle est mal connue, mais je pense qu'elle peut être appréciée par un maximum de gens, parce qu'on a tous un corps, et c'est un langage qui ne nécessite pas une culture ni littéraire, ni musicale, forcément. En fait, on a juste à ressentir comme devant un tableau. Et donc j'aime bien ça, j'aime bien l'idée que d'amener le plus de gens possible vers la danse, qui est pour moi un art universel en fait.
Même la danse contemporaine ?
Eh ben surtout la danse contemporaine, je dirais, parce que elle sort des schémas et des clichés. Et parfois il y a des gens qui veulent pas aller voir de la danse parce que tout de suite dès qu'on leur dit danse, ils voient des tutus, des gens sur les poings, des gens avec des collants moulants, etc. Alors que la danse contemporaine et même la danse en général est beaucoup plus créative que cela, aussi bien dans le stylisme des costumes par exemple que dans l'utilisation des musiques. Ça peut être, je vous dis n'importe quoi, mais ça peut être du rock metal, ça peut être de du piano avec du Bach, ça peut être du chant, enfin c'est très très ouvert, c'est très très large. Et c'est toujours source d'émotion que de voir des corps s'exprimer à travers ça, quoi.
Donc le spectacle que vous présentez ce soir au Théâtre du Briançonnais est constitué de trois créations, Annonciation, Trait d'Union et Larmes Blanches,
exact.
Qui sont trois anciennes créations.
Oui, c'est exact, parce que j'ai un peu le désir de travailler sur l'idée que la danse contemporaine a un répertoire. Parce que quand on pense répertoire, souvent on pense le Lac des Cygnes, le Casse-Noisette, Gisèle, enfin voilà, tous ces monuments et qui sont des pièces du répertoire. Et on croit toujours que la danse contemporaine, non. En fait, on fait un truc, puis après on le jette à la poubelle, puis après on en fait un autre. Mais c'est pas vrai. La danse contemporaine est capable de créer des choses qui peuvent être pérennes, qui peuvent être reprises. Et c'est une sorte de combat. Alors, je ne dis pas que c'est formidable, il faut que ce que je fais, il faut absolument le revoir. Mais c'est un acte presque politique pour moi de faire ça. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce que je veux que la danse contemporaine, finalement, trouve ses lettres de noblesse et qu'elle puisse s'affirmer dans la continuité de l'histoire de la danse depuis longtemps. Voilà.
Et cela signifie que ces pièces pourraient être reprises par d'autres compagnies, d'autres troupes ?
Oui, et d'ailleurs c'est le cas. Par exemple, L'Arme Blanche a été repris à plusieurs reprises. Un Trait d'Union que vous allez voir ici à Briançon a été dansé à l'Opéra de Paris par les danseurs de l'Opéra de Paris. L'Annonciation a été repris par énormément de compagnies, la Scala, le Bolshoï et bien d'autres. Hein, voilà.
Et pourquoi les jouer ensemble en triptyque ?
Parce que ça, c'est un peu une tradition dans la danse de parfois faire des triple bill ou des double bill, ils appellent ça comme ça. C'est-à-dire, c'est des programmes mixtes avec plusieurs ballets. On voit beaucoup ça au New York City Ballet, par exemple, où ils présentent, comme vous le savez sûrement, le New York City Ballet a été fondé par Georges Balanchine. Et donc, il y a des soirées à New York régulièrement où on reprend plusieurs ballets de Georges Balanchine qui faisait parfois des grands ballets, bien sûr, mais aussi parfois des ballets sur une œuvre musicale qui dure 20 minutes, par exemple, ou bien sur un thème qui ne demande pas un grand développement, mais qui peut être une sorte de vignette. Enfin, donc, c'est un peu dans cette tradition-là que s'inscrit ce programme de trois pièces du répertoire.
Lorsque vous reprenez ces pièces, est-ce que vous les retravaillez ? Il peut y avoir des évolutions, selon vous, votre évolution en tant que chorégraphe ?
Alors, la seule évolution qui se produit, c'est celle des interprètes. C'est-à-dire, c'est eux qui font évoluer, c'est eux qui réactualisent, qui redynamisent une pièce qui peut avoir 40 ans ou 30 ans. Et pour moi, c'est une grande émotion, justement. C'est un de mes grands plaisirs, justement, c'est de voir comment des danseurs qui n'étaient même pas nés quand j'ai fait certains des projets, tout à coup s'en emparent et lui redonnent vie, en fait. C'est une résurrection et ça, c'est absolument bouleversant.
Et comment travaillez-vous avec eux pour justement intégrer leur interprétation ?
Alors, je leur donne le matériau, non pas à travers une vidéo, mais on a, au ballet Preljokaj, on a trois notateurs qui sont mes assistants répétiteurs et qui sont à même de traduire par écrit sur une partition les mouvements des danseurs. Donc on donne le matériau chorégraphique, mais on ne donne pas une interprétation. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais danseur, j'arrivais dans une compagnie pour reprendre un rôle, on me montrait une vidéo, on me disait « Tu vois le gars en rouge là, bah, tu fais exactement tout comme lui. » Et je me disais « Mais c'est quoi tout comme lui ? » Enfin, où est la chorégraphie et où est le début de l'interprétation ? Et donc, c'était un peu limitant d'une certaine manière. C'est-à-dire que, du coup, soit on endosse totalement l'interprétation de l'autre, et donc on n'a plus de place pour s'exprimer, ou bien il faut trouver un autre moyen, c'est-à-dire de livrer des mouvements, une série de mouvements, un langage, comme étant comme un matériau, dont le danseur va s'emparer pour en donner sa propre version qui est liée à sa personnalité, à son histoire personnelle, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Ça veut dire juste que c'est incarné différemment qu'il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou même qu'un autre danseur qui le danse, peut-être quelqu'un à New York et quelqu'un à Paris, par exemple.
Et vous, ça vous fait quoi parfois quand vous voyez l'interprétation ?
Eh bien, ça me montre que une œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit musicale, théâtrale ou chorégraphique, c'est un millefeuille. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est nourri de plusieurs couches d'interprétation. Et plus il y a d'interprétation, plus il y a d'interprètes qui reprennent une œuvre, plus cette œuvre s'épaissit. Elle est enrichie par ceux qui l'interprètent, qui la dansent ou qui la jouent, si c'est de la musique, ou qui la jouent au théâtre, enfin voilà. Et c'est ça qui fait qu'une œuvre prend de la profondeur. C'est-à-dire, c'est donner une chance à une œuvre de s'approfondir, c'est la rejouer avec des interprètes différents. Et ça me paraît assez intéressant.
Une dernière question. Au-delà de l'interprétation, comme vous avez des créations où vous rejouez, est-ce qu'il y a un moment, parfois, pour jouer certaines pièces plus que d'autres ?
C'est toujours un pari, parce que les pièces, si vous reprenez une pièce qui a 30 ans, elle a été créée dans un contexte et puis elle peut très bien aujourd'hui tout à coup sonner bizarrement parce que c'est plus la même époque. Mais en même temps, il y a une des choses qu'on peut se dire, c'est que l'artiste essaye d'être en avance aussi sur son temps et tout à coup, 30 ans plus tard, elle prend encore une autre dimension. Je pense par exemple les noces sur la musique de Stravinsky. C'est un, pour moi, c'est, dès quand je l'ai créé en 1989, c'était une sorte de déclaration et de lutte contre la condition qu'on faisait et que le mariage imposait aux femmes, en fait. Et donc, il y a quelque chose qui est assez tragique dans ces noces, alors que les noces, en général, c'est la fête. Eh bien là, non, c'était assez tragique. Et bon, dès le début, ça a été assez reconnue comme une œuvre importante, en tout cas dans mon répertoire. Mais aujourd'hui, elle prend encore plus de force et de dimension parce qu'elle répond à un changement de société et de paradigme qui est très très flagrant après MeToo, etc. Et donc aujourd'hui encore, donc on a repris les noces et c'est vrai que tous les gens qui voient le spectacle disent mais c'est incroyable, on a l'impression que c'est une pièce qui nous parle d'aujourd'hui alors qu'elle a été créée il y a 38 ans maintenant.